Sans la guerre, Raymond Gary, dans Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Serge, ce serait peut-être pas mal que tu sois prêt à reprendre.
Bon, nous avons l'antenne, formidable, antenne Radio Libertaire. Donc je rappelle que c'est une émission qui met en valeur, il n'y a pas besoin de le mettre en valeur, parce que c'est un excellent numéro du Monde Libertaire de novembre, avec un dossier sur les guerres à la fois extérieures, intérieures, le militarisme, l'antimilitarisme. Bon, on a parlé d'un certain nombre d'aspects, d'un certain nombre d'articles, et maintenant on va rester en fait dans une actualité pas très réjouissante. On va parler du Brésil. Et je pense que vous avez entendu peut-être certains d'entre vous que le Brésil a la chance d'avoir un nouveau président. Bon, on va classer à extrême droite. Enfin, c'est pas moi qui le classe. Hein, et donc, il y a un certain nombre d'articles. René, qui va pas tarder à revenir à l'antenne, va nous en parler, puisqu'il a des contacts depuis longtemps avec des compagnons brésiliens, des historiens, etc. Et il a traduit un certain nombre d'articles. Et ce que j'ai compris d'après ces articles, il en parlera plus en détail, c'est que en fait, c'est pas une rupture, quoi. C'est-à-dire que l'aspect militaire de l'État brésilien qui date depuis de très longtemps, puis il y a une succession de coups d'État, etc. L'armée a toujours été présente, soit directement à travers une dictature, soit dans un fonctionnement, soit a toujours eu des appuis extrêmement forts. D'ailleurs, le dénommé Bolsonaro, si je me souviens bien, c'est un ancien militaire. Que l'article, qui avait plus ou moins été viré parce que il était un peu trop voyant, et je crois qu'il avait mis en place, essayé de mettre en place divers attentats, voilà, et que c'est un nostalgique de la dictature militaire la plus proche, je crois, la dernière, j'avais noté de 64 à 85. Alors, le problème, effectivement, elle va être de savoir qu'est-ce que ce monsieur, cet ancien militaire, donc on l'appelle un peu le Trump tropical, qu'est-ce qu'il va faire avec ce pouvoir, avec les gens qu'il pousse, avec une partie de la population, parce qu'il a quand même eu 55%. Donc, je propose, René, que tu nous dises un petit peu l'origine des articles que tu as traduits, et puis que tu nous parles un petit peu de ce détail, à la fois l'aspect historique et l'aspect actuel, qui sont effectivement, comme d'ailleurs dans plein de pays, qui sont très liés.
Alors, j'ai eu l'occasion d'aller au Brésil deux fois un mois, la première fois en 2014, et la deuxième il y a un an. Et un peu plus d'un an. J'ai vu un peu l'évolution, quoi. La première fois que j'y suis allé, il y avait les manifestations très hargneuses contre Dilma, la présidente qui avait remplacé Lula. J'étais absolument stupéfait par la hargne et la violence verbale des gens qui manifestaient, quoi. Et la manipulation de l'opinion. On essayait de faire croire que le Brésil allait se transformer en un nouveau Cuba, etc. Enfin bon, c'était étonnant. Et les articles que j'ai, qui sont publiés dans le Monde Libertaire, qui va paraître là, ce sont des articles que j'ai demandé à des copains, des camarades libertaires de Rio. Et de Sao Paulo et de, je sais plus, de Campinas, bon, différentes villes du Brésil. Il y en a un qui est particulièrement intéressant, c'est l'article signé Alexandre Samis, qui est un historien de Rio. Alors, je ne vais pas développer le contenu de l'article, mais il expose de manière extrêmement claire le contexte dans lequel, enfin, le processus historique par lequel l'armée est devenue une force dominante dans le pays, quoi. Et c'est ça fait plus d'un siècle, quoi, depuis la libération du Brésil, quand le régime impérial a été renversé. Et donc c'est un processus à la fois ancien pour le Brésil et nouveau pour nous, mais l'article montre comment le complexe militaro-industriel brésilien, en quelque sorte, est est presque génétiquement implanté dans le dans la société, quoi. Et quand on va là-bas, bon, par exemple, ma compagne, un jour, il y avait... Alors, les flics là-bas, c'est pas des flics... Enfin, ils sont tous bardés de... On dirait des chevaliers du Moyen-Âge, quoi. Hein, bon, mais tout le temps. Bon. Et on cherchait notre chemin, et elle s'adresse au flic en lui demandant son chemin, quoi. Est-ce que vous connaissez la rue? Le mec n'a même pas répondu, quoi. Il l'a regardé d'un air... Mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Elle est folle, quoi. Personne ne demande son chemin à un flic au Brésil, quoi, tu vois. Parce que les flics, c'est pas ça, c'est pas là pour ça. C'est là pour taper sur les gens, quoi. Bon. Et c'est assez hallucinant, quoi. Parce que même en France, on peut penser ce qu'on veut des flics. Tu te croises un flic dans la rue, tu lui demandes le chemin, il te dit, quoi. Bon. Mais c'était glaçant. C'était glaçant. Alors, j'ai discuté avec les copains, à la fois de Sao Paulo et de Rio et de Salvador de Bahia. Et un jour, on était au restaurant avec des copains sur le haut de Rio et tu penches la tête et puis tu vois une favela, quoi, sur des hectares et des hectares, quoi. Elle est là, quoi, tu vois, elle est juste à côté. Et puis, entre la poire et le fromage, si je peux dire, on entend une grosse explosion. Bof ! Dans la favela, un gros nuage de fumée. Les copains, ils n'ont même pas réagi, quoi. Bon, et alors on leur demandait qu'est-ce que c'est. Ah bah c'est les gangs dans la favela. Et alors du coup ça a déclenché une conversation. On les a interrogés sur comment ça se passe dans la favela, enfin, dans les favelas. Et ils disaient, en gros il y a trois pouvoirs dans la favela. Il y a la police, l'armée et les églises évangéliques. Et ces trois pouvoirs prélèvent leurs dîmes sur le trafic de drogue. C'est le discours qui tenait, quoi. Et donc, une fois que ces trois-là sont passés, il ne reste plus grand-chose à la population, quoi. Mmh. Bon. C'est un système mafieux. Alors, quand l'autre, là, le nouvel élu, parle de lutter contre la corruption, ça fait rigoler. Parce que la corruption est quelque chose qui est, pour ainsi dire, intrinsèque aux différentes institutions brésiliennes, comme la police et l'armée, quoi. Ça n'existe pas sans la corruption, quoi. Ça fait partie des fondements. Bon. Alors j'ai demandé quelle est la... Parce que dans les favelas, c'est un endroit hallucinant, c'est surpeuplé, quoi. On imagine mal, quoi. Alors comment ça fonctionne? En fait, elles sont implantées sur des zones non constructibles. Alors, c'est pas a priori quelque chose où il y a des bandits, enfin tout ça. Bon, c'est simplement des gens normaux, comme toi et moi, qui ne trouvent pas à se loger dans la ville parce que c'est trop cher ou parce qu'il n'y a pas de place, et qui vont dans les zones inconstructibles, c'est-à-dire les collines où la pente est trop raide, et qui construisent des maisons.
En fait, c'est l'exode rural qu'on a connu ici dans les années 50. Hein.
Mmh. Oui. Alors, ils construisent un étage, et puis la famille ça s'agrandit, ils construisent un autre étage, et puis éventuellement, il y a un gars, un copain, un ami, quelqu'un qui dit « Est-ce que je peux construire par-dessus la tienne ?» Alors hop, ils payent, on construit encore un truc, alors c'est fait de briques et de brocs, et puis de temps en temps, ça s'effondre, mais plutôt pas, quoi. Ça tient plutôt, quoi. Et donc, c'est des constructions... je sais pas comment expliquer ça, c'est comme des châteaux de cartes, quoi. C'est un château de cartes. Et c'est à l'origine, c'est simplement des gens qui ne trouvent pas à se loger et qui s'installent dans des endroits non constructibles. Et la crise du logement est telle qu'il y a des gens qui ont un boulot, des gens qui ont une paye, qui ont des revenus, etc., qui s'installent dans les favelas parce que c'est moins cher. Bon. Mais le fait est qu'il y a tout un réseau mafieux qui s'est créé dans ces structures urbaines qui sont absolument étonnantes et on peut pas y échapper, quoi. Bon. Et j'ai demandé aux camarades quelle est la proportion de la population qui vit dans les favelas. Alors ils ont répondu, on ne sait pas parce que les chiffres divergent. Ça va de 40 à 80% de la population. Bon, 80%, j'ai un peu de mal à le croire, mais même 40%, c'est énorme. Mmh. C'est comme si... Parce que c'est des bidonvilles. Hein, bon. C'est comme si 40% de la population française vivait dans un bidonville. Bon, je ne sais pas si on y est... On va peut-être y arriver un jour, mais on n'y est pas encore, quoi. Bon. Et c'est ça. Bon. Et ces favelas ne sont pas quelque chose d'excentré par rapport à la ville. Parce qu'on voit la carte de Rio de Janeiro, de Sao Paulo, et puis il y a la ville normale, si je peux dire. Bon, et puis en plein milieu, tu as une favela, et puis plus loin, tu en as une autre. Mais c'est géographiquement intégré dans le périmètre urbain, quoi. C'est pas des choses qui, c'est pas des banlieues comme en France, quoi. Il y a des, bon, il y a des choses qui sont un peu équivalentes aux favelas dans les grandes villes en France, finalement, hein, bon. Enfin, en moins exagéré. Mais ces bidonvilles-là sont intégrées, c'est des espaces intégrés dans la surface de la ville, quoi. Alors, ce qui est surprenant, on a vu, c'est que une bonne partie des gens qui vivent dans la favela ont voté Bolsonaro. Alors, ça peut paraître surprenant, mais en fait, pas du tout. Parce que c'est des gens pauvres, en général. Plus grande partie des gens qui vivent dans les favelas sont des pauvres, très très pauvres. Mais ils sont sensibles au discours sécuritaire, parce que c'est des gens qui en ont marre, quoi, de vivre dans une zone... c'est des zones de non-droit, en fait, hein. Bon. Et c'est probablement ce qui explique que les habitants des favelas ont pu massivement voter pour Bolsonaro.
Mais est-ce que tu as parlé, bon, j'en fais pas une fixation, mais tu as parlé des églises évangéliques, notamment dans leur implantation dans les favelas, qui se sont, enfin, je crois qu'ils ont fait l'effort pour parler, pas les seuls, mais eux, ils ont fait l'effort pour soutenir leur candidat. Est-ce que ils ont pu avoir un rôle, ou est-ce que dans ces favelas, est-ce que c'est quelque chose d'extérieur, ils ont des appuis, j'imagine.
Les évangélistes représentent, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais un tiers de la population.
Ah oui, d'accord.
Et ils ont une puissance énorme.
Parce que là, ils ont pris parti à fond.
Le maire de Rio, lorsque j'y étais, était évangéliste. Ah oui. Je ne sais pas s'il l'est toujours, probablement. Mais il y a des églises partout. Alors, ce n'est pas des églises. Hein, c'est pas... Enfin, quelques-unes ressemblent vaguement à un temple, avec les signes extérieurs. Mais la plupart, c'est des garages qui ont été transformés. Alors, il y a marqué simplement église évangélique du je sais pas quoi. Bon. Mais c'est des bâtiments, des constructions civiles, si je peux dire, qui ont été achetés par telle ou telle église et transformés en temple, quoi. Mmh. Et il y en a partout.
Et un des éléments, enfin, tu l'as un peu dit, certainement, c'est qu'il y a un rejet, enfin, la classe politique est dans le système que tu as décrit, c'est-à-dire, évidemment, est corrompu, puisque de toute façon, tout est corrompu. Et d'ailleurs, je me souviens, certainement, tu étais là, on avait fait une émission, en tout cas avec les compagnons brésiliens, quand ils sont venus à Paris, ils nous en ont parlé, que c'était assez curieux de voir quand, justement, quand Wilma, qui avait succédé à Lula, a été accusé de corruption, enfin, ça, on a entendu parler dans la presse, etc. Alors, ceux qui l'accusaient étaient encore bien plus corrompus qu'elle. Quoi.
La corruption de Wilma, c'était une corruption marginale, si je peux dire. Voilà. C'était, à un moment donné, tu peux pas, quand tu es dans la situation de président au Brésil, être impliqué un tant soit peu dans la corruption. Mais disons, il y a le niveau de corruption à peu près acceptable, qui est inévitable, et elle n'avait pas dépassé cette limite, quoi. Alors que les autres, beaucoup de ceux qui ont mené la campagne pour la destitution de Wilma ne peuvent pas aller en Europe ou aux États-Unis parce qu'ils sont recherchés par la police, par Interpol, etc. Bon, c'est des gens qui sont corrompus jusqu'aux yeux, quoi.
Donc, tu dis, et je pense que c'est... Enfin, les compagnons disent, en tout cas, qu'il y a un réel appui, enfin, au moins en vote, d'une partie des classes pauvres. Bon. J'imagine quand même que la majorité des classes moyennes le soutiennent, non ? Je ne sais pas.
Non. Alors, j'ai trouvé dans la presse américaine un certain nombre d'éléments sur pourquoi ça s'est passé comme ça et qui soutient Bolsonaro. Bon. En gros, ce qui ressort le plus, c'est que il y a la confiance dans l'establishment politique est complètement effondrée. Et ça explique en grande partie le vote en faveur de
enfin, c'est quand même curieux, c'est que ce mec-là, fasciste, quoi. Bon. Il, ça fait quand même une dizaine d'années qu'il fait de la politique. Macron qui veut faire croire. Enfin, je ne dis pas qu'il est corrompu, sans doute ou pas, je m'en fous. Il veut faire croire que c'est un petit nouveau qui arrive, alors que ça faisait des années déjà qu'il magouillait. Lui bah, aussi, quand
Bolsonaro,
même.
Bolsonaro, c'est pas. On essaye de faire croire que c'est un nouveau. Alors, pas du tout, ça fait plus de 20 ans qu'il fait de la politique. C'est pas un scoop, quoi, je veux dire.
Et lui aussi, il en faisait depuis un certain nombre d'années, quand même, puisqu'il a été viré de l'armée.
Oui.
Mais peut-être pas au premier plan, quoi, c'est ça.
Enfin, il était capitaine.
Ouais. Non, mais je veux dire, du point de vue politique, il était moins exposé dans les médias. Je ne sais pas pourquoi, député, comment il peut passer pour un mec qui n'est pas corrompu.
C'était un élu. Bon. Alors, ceux qui ont soutenu Bolsonaro, c'est avant tout les élites économiques du pays. C'est-à-dire, il a reçu le soutien des fabricants d'armes, déjà. Des grands propriétaires terriens, qui sont énormes. Bon, c'est les latifundias, c'est quelque chose d'énorme. Hein. Des industriels et du secteur du commerce. Bon, c'est, au niveau économique, c'est ça. Alors son programme, en gros, c'est de revenir en arrière sur tous les acquis sociaux, toutes les régulations qui ont pu empêcher un peu protéger un peu la population. Il veut liquider ça. Il veut légaliser l'accès aux armes à feu. Il veut abolir l'éducation progressiste dans les écoles. Bon. Baisser le l'âge pénal à 16 ans. Accorder l'immunité aux officiers de police qui tuent des civils. Les copains m'avaient dit qu'à l'époque, il y avait 2000 hommes, enfin c'est surtout des hommes qui rentrent dans les commerces, enfin 2000 personnes pauvres, hein, qui rentrent dans les commissariats par an et qui ne sortent plus, quoi, ou enfin, qui ne sortent pas vivants. Quoi. Il veut traiter les mouvements sociaux comme si c'était des organisations terroristes. Il veut évidemment s'opposer au mouvement des sans-terres, c'est-à-dire des gens qui sont virés de leur terre, souvent par la violence la plus extrême. Bon. Il veut supprimer toute subvention aux organisations humanitaires et revenir sur toutes les mesures de protection sociale et affaiblir toute possibilité de négociation collective. Bon, alors c'est pas mal quand même. Bon.
Ouais. Oui, je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'ai vu aussi que... Enfin, si tu l'as dit, j'arrête tout de suite. Mais tellement de choses horribles qu'il veut aussi... Parce que les territoires indigènes, il y a relativement une protection. Donc les grosses firmes ne peuvent pas arriver comme ça. Quoique, peut-être qu'ils ne gênent pas trop. Mais il y a quand même des lois qui limitaient la possibilité d'aller piquer les terres aux indigènes pour aller faire des trous, faire du fric et tout. Apparemment, il veut faire sauter ça.
Mais ça, c'est pas nouveau. Hein. Bon, il veut sans doute accélérer, faciliter l'appropriation des terres par les grands propriétaires et par les sociétés industrielles. Mais c'est pas spécialement nouveau. Parce que, par exemple, j'ai connu quelqu'un qui avait vécu au Brésil dans les années 80 et qui travaillait dans l'industrie, dans l'agroalimentaire. Et il disait que les grands propriétaires terriens font des faux documents de propriété. Et avec ces faux documents qui ne trompent personne, ils débarquent dans des communautés agricoles, indigènes ou pas forcément indigènes, et ils les virent.
C'est chez nous.
Oui, avec l'aide de l'armée, quoi. Et c'est pas récent, quoi. Il est possible que ce genre de pratique va se multiplier.
Mais en plus, ils auront la loi pour eux. Avant, la loi était soi-disant plus ou moins limitée. Là, mais bon, ils outrepassaient, mais là, ils n'auront même pas outrepassé, quoi.
Il faut comprendre qu'au Brésil, en France, il y a des droits de propriété. Enfin, la propriété est délimitée. Et on sait à qui elle appartient depuis 1000 ans, quoi, je veux dire. Bon. Au Brésil, c'est tout nouveau. Et il y a des territoires énormes où personne ne s'est jamais implanté, enfin, aucun Européen s'est jamais implanté avec le droit européen. Et c'était des communautés locales, indigènes, et où, qui ne fonctionnaient pas avec le même droit que nous, enfin, que les mêmes droits que les Européens. Donc il n'y avait pas besoin de ce droit-là. Mais maintenant, le droit local, originel, si je peux dire, est complètement remis en cause et bafoué au profit du droit de type européen. Quoi. J'ose pas dire le droit romain. Je sais pas si on peut parler de droit de code civil là-bas. Enfin bon. Mais en tout cas, c'est un droit d'origine européenne qui est imposé à des gens qui vivent depuis des milliers d'années sur un territoire où il n'y a pas ce genre de droit-là. Et donc, il suffit de falsifier un titre de se créer un titre de propriété bidon sur d'énormes territoires, et puis il est à toi. Quoi. T'as évidemment bacchiché qui fallait. Quoi. Bon. Et c'est invraisemblable.
Je pense que, de toute façon, je crois avoir, si j'ai bien lu ton article ou ta présentation des articles dans Le Monde Libertaire, là, tu penses avoir des... Parce que c'est quand même important, hein, le Brésil, c'est pas rien, hein, dans l'Amérique latine, voire au-delà, avoir des articles pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se mettre en place, ce qui va être encore pire que ce qu'il y a actuellement.
Normalement, il est prévu... j'avais demandé à un certain nombre de copains des articles, il y en a qui m'ont dit... On t'enverra un article après pour quand ça sera fait pour faire un petit peu un bilan.
Acte, bon.
Alors, dans sa campagne électorale, Bolsonaro a constamment attaqué les droits sociaux, évidemment, tels que le droit à la santé, en particulier, et les retraites. C'est le béaba de tout système néolibéral. Et sur ce plan-là, c'est la même chose en France. Hein. Bon,
D'accord. Moi, je pense qu'on va garder une dernière séquence et on va faire une pause musicale. Peut-être je proposerai un sujet le même, mais un peu, vu d'un angle un peu plus optimiste, j'expliquerai pourquoi après.
Notre monde entier s'effondre. Les spectres sortent de l'ombre, les Indiens se font la guerre, Mahatma n'a pas su faire, la bombe est prête à sauter, le bouton à s'enfoncer, des avions tournent sans cesse, des enfants déformés naissent, le racisme existe encore, malgré tous ceux qui sont morts. Au nom de la liberté, combien de gens sont tués? Ne voyez-vous pas mes frères? Où se dirige la terre? Les révoltes nous étonnent, mille glas partout résonnent, des cadavres ressuscitent, partout les regards s'évitent, on arrache les forêts. Pour y planter des armées. Des enfants parfois s'élèvent, disant mettez une trêve à ce futur inquiétant, mais leur voix s'envole au vent. Et la fête continue, les chaussures frappent à l'ONU. Les premiers soudain s'écroulent, le scandale amuse les foules. Les fusils et les lunettes leur font tous peur pour leur tête. Des conseils se réunissent, on prie pour que tout finisse. On croit redevenir sage, on pense tourner la page. L'âge d'or enfin commence, mais soudain on nous annonce que quelques nations lointaines s'est réveillé dans la haine, que des peuples se rebellent, qu'il faut qu'on leur soit fidèle. On leur envoie quelques troupes et les partis se regroupent, les alliances se reforment, les beaux sentiments s'endorment. Les ultimatums s'envolent, les gros bombardiers décollent. Et si un jour, par erreur, au Vietnam, à Cuba ou ailleurs, on pousse un bouton de trop, Le feu d'artifice est beau. Ce n'est pas ainsi, mon frère, que l'on met fin à la guerre. Ce n'est pas ainsi, mon frère, que l'on met fin à la guerre.
La guerre, Antoine, sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Vous écoutez Trou Noir.
On fait une dernière séquence avec nos deux invités, donc Patrick et René. Je rappelle que on parle autour des articles et ce que ces articles peuvent suggérer donc du Monde Libertaire de novembre, qu'on vous invite à lire et si vous n'êtes pas encore à vous abonner. Donc René avait encore quelque chose pour nous aussi un peu plus moral sur le Brésil.
Très rapidement pour vous plomber encore plus le moral.
Ouais.
Bon, les soutiens de Bolsonaro étaient très importants dans la classe moyenne chez les professionnels, enfin la classe moyenne éduquée, par exemple les médecins et les avocats. 30% des gens qui ont une éducation de lycée ont voté pour lui.
Est-ce que tu penses des intérêts économiques ou des intérêts par rapport à l'insécurité?
À mon avis, c'est idéologique, mais aussi le maintien de leur niveau de vie, quoi. Ils sont opposés à toute redistribution, quoi. Parce que les classes moyennes ont perdu, ils craignent justement la baisse du pouvoir d'achat et sont opposés aux politiques de redistribution. Les politiques affirmatives aussi dans les universités, on favorise les gens pauvres par rapport aux autres. Bon. Il y a un racisme très important dans les classes moyennes. Hein, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est effectif et que j'ai pu constater aussi, bon, dans la classe moyenne blanche. Hein. La violence et la criminalité est énorme là-bas, hein. Évidemment chez les pauvres. Quand on vit dans la périphérie de Sao Paulo, on vit dans un contexte de guerre civile, hein, entre la guerre et la police. Bon. Et des chiffres officiels donnent sur 10 ans, le nombre d'un demi-million d'homicides sur 10 ans. Bon. Et en dernier, mais pas le moindre, les évangéliques, les chrétiens, mais aussi les catholiques, de droite, quoi, ont été un grand soutien de Bolsonaro. Voilà. On a raconté des âneries sur des kits gays qui seraient distribués dans les écoles pour inciter les jeunes de 6 ans à devenir homosexuels. Bon, ça fait partie des conneries que diffusent les partisans de Bolsonaro pour discréditer le candidat de gauche. Quoi. Voilà.
D'accord, on renvoie aux articles du Monde Libertaire et puis peut-être on fera une émission dans quelques temps avec les informations que tu reçois, René. J'avais un peu essayé de consoler les auditeurs, puis nous aussi, pourquoi pas, tu peux parler rapidement, Patrick, d'un État qui est quand même un État qui n'est pas forcément respectable sur tous les plans, mais en tout cas qui n'a pas d'armée, et donc cet argent, il peut éventuellement l'utiliser d'une façon beaucoup plus utile. Donc tu nous parles un petit peu de cet article autour, entre autres, du Costa Rica.
Oui, merci de l'ouvrir sur ce sujet. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'en lisant l'article, donc je vous recommande Le Monde Libertaire, j'étais stupéfait de ne pas avoir pensé ça. C'est juste qu'il faut supprimer l'armée. On est toujours contre l'armée, mais ça veut dire qu'elle existe quand même. Là, l'idée, c'est que on appelle ça la dissolution de problème. Le problème est dissous, donc il n'y a pas à le résoudre. Et l'article nous apprend que il y a 26 pays dans le monde qui n'ont pas d'armée. Donc en général des petits pays. Et puis il y a deux pays significatifs, Panama, Costa Rica, 4 millions d'habitants, qui ont fait le choix de ne pas en avoir. Un certain nombre de ces pays ont des parrains, des protecteurs. Et en fait, l'OTAN pour l'Europe, c'est une forme de parrain américain dans tous les sens du terme, au-dessus d'États qui ont déjà une armée. Donc c'est belote et rebelote. Donc dans le cas du Costa Rica, c'était en 48, donc
il y a 70 ans,
voilà, un anniversaire, 70 ans,
que en décembre,
en décembre, 1er décembre 48,
qui a eu cette décision prise après une guerre civile absolument épouvantable, plusieurs milliers de morts, et cette décision de supprimer l'armée. Alors, le contexte un peu, comme René venait d'évoquer là, pour le Brésil, en Amérique latine, les militaires sont souvent embarrassants pour la société civile, voire pour la classe politique. Ils ont tendance à sortir un peu du précaré auquel on voudrait bien les conserver. Donc le nouveau président a fait deux choses très intéressantes. Nationaliser les banques, reprendre en main une partie de l'économie, en particulier son financement, et abolir l'armée. Et donc, en fait, il y a une citation là, d'un analyste professeur en sciences politiques qui dit « Supprimer l'institution militaire répondait à une nécessité politique. L'armée était divisée. L'éliminer permettait d'éviter tout risque de renversement du pouvoir. » Donc l'armée reste un problème potentiel, même quand elle ne fait pas la guerre, parce qu'elle peut décider qu'il faut enfin un peu d'ordre dans le pays et prendre le pouvoir. Donc la conséquence, c'est évidemment des économies absolument majeures, l'espérance de vie qui a décollé, le taux de mortalité qui a baissé, l'éducation qui a fait un bond absolument considérable. Et il y a une étude là, de la Fondation Arias, Fondation pour la Paix, qui explique que l'argent économisé a permis de financer l'ensemble des universités publiques, donc c'est un sujet d'actualité même en France, hein, et trois hôpitaux, donc pour un pays de 5 millions d'habitants, c'est plutôt pas mal. Et avec un taux d'alphabétisation, sachant qu'on est, c'est l'Amérique centrale, qui est énorme, 96,7%, donc on va dire tout le monde, quasiment. Donc on voit que cette économie-là est colossale. Donc rapporté au niveau français, l'article chiffre le budget de l'armée en France, c'est 34,2 milliards. Donc ça, c'est tous les ans. Donc on nous bassine avec les déficits. On a des frontières raisonnablement stabilisées après les deux boucheries qu'on a vécues. Hein. Donc on voit que ça pourrait être mieux utilisé. Et là, l'article conclut sur un sondage qui a été qui a eu lieu en 85, donc presque 30 ans après, sur le retour de l'armée. D'ailleurs, il y a eu une interrogation au Japon, dont je ne me souviens plus du résultat, sur la remilitarisation du Japon. Là, il n'y a vraiment pas photo. 9 Costa-Ricains sur 10 ont répondu non, on ne veut pas d'armée. Donc c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Je me méfie que d'être tout le temps en opposition, parce qu'on finit par s'y habituer. En fait, il y a vraiment une solution qui est de dire on ne veut pas d'armée. L'usage qu'on a fait est absolument épouvantable. Ça coûte extrêmement cher, et donc c'est le mot des révolutions arabes, c'est dégage, donc dégager l'armée.
Bon, ben voilà.
Ouais, j'ai le temps de dire trois mots. C'est très réconfortant, j'espère que ça va remonter le moral à nos auditeurs, mais comme j'ai un peu tendance à être toujours sceptique, si on rapporte le cas que tu donnes à la France est un État impérialiste qui a des intérêts économique énorme à l'étranger. Si la présence française en Afrique est liée à cet impérialisme économique, la nécessité de trouver des matières premières, de l'uranium en particulier, l'existence de l'armée française n'est évidemment pas faite, n'est pas là pour défendre les frontières françaises qui sont effectivement consolidées, comme tu dis. Bon, je pense pas que Monaco va envahir la France, mais cette armée est liée à tout un contexte politique et économique extrêmement complexe. Et c'est cette situation complexe qui nécessite absolument l'existence d'une armée française pour réaliser des objectifs qui n'ont rien à voir avec l'intérêt des Français, mais avec l'intérêt du capital français. Donc, ça revient à dire, je dis pas qu'il faut pas supprimer l'armée française, mais il faudrait supprimer le capitalisme en France et ailleurs, hein, si, Et ensuite envisager la suppression de l'armée, quoi, parce que c'est l'armée, c'est en quelque sorte l'instrument. Alors, il y a des pays où l'armée n'est pas forcément un instrument, c'est l'élément moteur de la politique. Bon, ça a été le cas en Amérique latine, dans toute l'Amérique latine, dans les années 70 jusqu'en 85, par là, où c'était l'armée qui était le conducteur, en gros, de la politique des différents pays. Bon, donc la situation est différente. On ne peut pas avoir les mêmes critères d'évaluation dans les deux cas, quoi.
Et par ailleurs, on peut noter qu'il y a eu deux décisions concomitantes, supprimer l'armée, nationaliser les banques. Hein, donc, ça va tout à fait dans le sens de ce que tu dis. J'ai une petite anecdote.
Oui, vas-y, tu as encore 2-3 minutes, allez.
On avait organisé un déjeuner, l'équipe du Monde Libertaire. Hein, on est 5 à être actifs sur le sujet et on est distribués entre le fin fond. Alors, il va me détester parce que je vais dire Ardèche, mais je suis sûr que ce n'est pas l'Ardèche, mais donc c'est très loin de Paris. Moi, je suis parisien. Nathanaël, donc c'est Bernard qui est là-bas, Nathanaël qui est à Lyon, Odile en Seine-et-Marne, Sylvain qui est en Bretagne. Donc l'idée c'était de se réunir un peu et donc de déjeuner à la maison. Donc je demande, maintenant c'est un peu compliqué de faire à déjeuner, quelles sont les contraintes alimentaires de chacun entre le gluten, la viande. Et voilà que Odile, donc, qui est membre du comité de réaction, m'envoie un mail et fait moi je ne vais pas manger. Alors j'ai fait OK, super. Et en fait, elle ne mangeait pas parce qu'il y a un jeûne de 3 jours que j'ai découvert, d'ailleurs, de cette façon, qui est organisé chaque année en commémoration du massacre d'Hiroshima, oui, et de Nagasaki. Et donc, Odile suivait ce jeûne et ne mangeait pas. Et c'est vrai que l'histoire, on le sait, hein, c'est écrit par ceux qui ont gagné les guerres. Hiroshima, Nagasaki, c'est comme si ça n'avait pas existé. Alors, on n'en parle jamais. Donc, c'est important, je pense, de promouvoir cette action-là qui remet en avant ce massacre absolument épouvantable de civils pour lequel les Américains ont fait belote un premier coup et rebelote un deuxième coup. Donc, c'est quelque chose de complètement dément. Donc, voilà, donc c'était petit hommage à notre camarade.
Puisqu'on parle de massacre, il y en a un autre qui est passé dans la poubelle de l'histoire. C'est le massacre de 300 000 Chinois par les Japonais à Nankin en 1937. Bon, on peut parler de ça. Le nombre de morts a été supérieur à celui d'Hiroshima. Bon, alors ils sont morts et ça a été un massacre dans des conditions épouvantables qui est complètement nié par l'État japonais.
D'accord, mais enfin, malheureusement, effectivement, ce qu'on appelle l'histoire, justement, a commencé d'exister quand il y a eu des États, et donc ont commencé les guerres, et finalement, l'histoire, c'est l'histoire des guerres, et ça continue, même si on exporte les guerres et les armes, comme on l'a dit au début. Je vous remercie, donc je rappelle que c'est en discuté autour du Monde Libertaire de novembre, il y a encore d'autres articles, bien sûr, qu'on n'a pas pu évoquer. Je pense que c'est important à la fois de s'informer, puis aussi d'agir. Peut-être on reviendra un petit peu, puisque je rappelle qu'il y a une campagne antimilitariste de la Fédération anarchiste qui va s'étaler sur plusieurs mois, voire qui va rester permanente. Après tout, je pense que l'antimilitarisme est quelque chose d'extrêmement fort et utile. Et malheureusement, qu'on est amené à relancer, parce qu'il a un peu baissé, je pense, notamment en France actuellement. Voilà, on vous remercie. Merci. Si vous pouvez, d'ailleurs, je rappelle, vous abonner au Monde Libertaire. Tu peux rappeler ton bouquin, René, là, qu'on a évoqué en début d'émission. Voilà, je l'ai sous les yeux. J'aimerais savoir son titre par cœur, parce qu'en plus, je l'ai à la maison. Il est très intéressant. Kropotkine et la Grande Guerre de René Berthier aux éditions du Monde Libertaire, autour de la guerre de 14 et puis ce qui l'a précédé. Enfin, ça permet de mieux comprendre les enjeux et ce qui s'est passé. Donc à la semaine prochaine avec Gérard Mordilla, on parlera d'un excellent film qui s'appelle Mélancolie ouvrière. Voilà.
Oui, tout à fait. Et on va se quitter avec un sourire pour détendre un peu l'atmosphère après cette émission. Ancien combattant, vous voyez, on ne lâche pas le thème. Donc ancien combattant, Michel Buller. Au revoir.
Je lance un cri d'alarme, que font les écolos? Le pouvoir, les gendarmes, que fait Brigitte Bardot? Une espèce de plus meurt là devant nous. Il y a de l'abus, le monde devient fou. Ce n'est pour une fois pas la faute aux chasseurs, pas la faute au climat, pas plus qu'aux pollueurs, non. Ce qui maintenant se produit sous nos yeux, c'est un étouffement hypocrite, insidieux. Faute de sang nouveau, toute race s'éteint. Dauphins, dinosaures, le terrible destin. Sont-ils déjà trop rares, ceux dont je parle ici? Est-il déjà trop tard? Peut-être, car voici 40 ans, messieurs, dames, que l'Europe s'ennuie. Sans le plus petit drame, sans le moindre conflit, sans se donner la chance, et depuis tout ce temps, de saluer la naissance d'un ancien combattant. On ne sait plus faire la guerre, ça n'est pourtant pas con. Manque de militaires, de blindés, de canons. Que leur faut-il encore de plus à ces blancs becs, à ces états-majors qui gardent les pieds secs? Ils claquent mon pognon en manœuvre futile, en théorie bidon, en guéguerre inutile. Et pendant qu'ils s'amusent, coup de gueule, coup de bluff, l'ancien combattant s'use, on exige des neufs. Pardon, me direz-vous, on a pris des mesures pour tenter malgré tout de donner au futur des anciens combattants dignes de leur époque qui tout frais, tout fringant, rajeuniraient le stock. Laissez-moi rigoler sur vos tueries mesquines, vos massacres avortés au Tchad ou au Malouine. Ça se passait loin d'ici, c'était pour des gamines, tout comme en Algérie, tout comme en Indochine. Le vétéran, le vrai, à médaille et moustache, celui qui avait le béret, celui qui avait du panache, avait derrière lui, monsieur, plusieurs millions de morts. Il revenait joyeux, il en voulait encore. On savait ce qu'était la haine et la revanche. Et quand on s'étripait, c'était à l'arme blanche. On était entre nous, je veux dire entre blancs. Maintenant, que voulez-vous, tout s'en va, tout fout le camp. On ne reverra plus, la nature est fragile. Toutes ces gueules tordues défilent dans nos villes. Oui, c'en est bien fini de ce glorieux passé. Et c'est la faute à qui? À vous qui vous taisez. Et ce n'est pas l'avenir, la prochaine hécatombe, qui peut me réjouir, puisqu'on dit que la bombe ne laissera ici-bas pas un être vivant, pas un seul, même pas un ancien combattant. Lance un cri d'alarme, que font les écolos? Le pouvoir, les gendarmes, que fait Brigitte Bardot? Une espèce de plus meurt là devant nous. Il y a de l'abus, le monde devient fou.